الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مش شافعي Nous remercions d'abord Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de reprendre ce soir ces programmes concernant les sharh des 40 hadiths compilés par Imam An-Nawawi rahimahullah. Je vous rappelle que le deuxième hadith qui a été vu, c'était le hadith de Jibril, dans lequel Jibril alayhi salam vient voir le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que les sahaba dans la masjid Nabawi. Et lors de cette rencontre, Jibril alayhi salam, bien sûr, apparaît sous la forme d'un être humain. Apparaît sous la forme d'un être humain que personne ne connaît, un homme d'une grande beauté, aux cheveux très noirs, des habits blancs, c'est-à-dire un étranger, mais qui paradoxalement n'a aucune trace de voyage. Ce n'est pas comme si quelqu'un qui vient d'un voyage. Les sahabas sont un peu étonnés par l'attitude de cet homme qui emboîte le pas à tout le monde et qui vient s'installer directement auprès du prophète alayhi salatu wassalam et lui pose des questions. Et à chaque fois qu'il pose des questions au prophète alayhi salatu wassalam, des questions très simples, des questions de base, et le prophète alayhi salatu wassalam apporte la réponse. Et paradoxalement, l'étranger, on va l'appeler comme ça, l'étranger atteste que tu as dit vrai. Alors les sahabas voient en cette réplique un manque de respect. Comment c'est comme si cet homme mettait à l'épreuve la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont intrigués, chaque question sur la foi, sur l'islam, sur l'iman et sur d'autres points qu'on verra par la suite. Et après, lorsque cet homme quitte l'assemblée, il s'en va, il y a différentes versions. Maintenant, le prophète dit à un sahaba, rappelle cet homme. Et lorsque le sahaba sort, alors que cette personne venait de quitter la masjid, il sort, et on a expliqué que ce n'était pas comme Madina de nos jours, où il y a plein de ruelles, où il y a une esplanade, où il y a 10 000 personnes dehors. Non, si une personne quittait la masjid Nabawi, dehors c'était le désert. On le voyait à 15, 20, 30 mètres. Et là, le sahaba sort, il ne voit plus personne. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué au sahaba, il le savait lui, savez-vous qui était cet homme? Le sahaba dit au prophète d'Allah, on ne le sait pas. Le prophète dit, c'était Jibril, alayhi salam, qui était venu vous enseigner votre religion. Et Jibril n'a pas enseigné des choses nouvelles. Ce n'était pas des fatwas ou ce n'était pas des maslas compliqués sur l'héritage ou sur le destin. C'était des choses d'une extrême simplicité, mais c'était les principes de la foi. L'iman, l'islam, c'est quoi les piliers de la religion, c'est quoi les piliers de la foi. D'accord ? Cela nous fait comprendre que le musulman se doit de se mettre à jour tout le temps. D'accord ? Et en plus, ce hadith a eu lieu à Madina. C'est-à-dire qu'après 13 années de révélation déjà. Après 13 années de révélation au moins de Makka, et à quelle période exactement de Madina, ça on ne sait pas, ce que c'est au début, au milieu, à la fin. Mais dire qu'il y a des sahabas comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, etc., etc. Mais malgré cela, ils écoutent et ils apprennent ce que Jibril alayhi salam va rappeler aux sahabas par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai expliqué la dernière fois quelques points sur le respect de Jibril par rapport au prophète alayhi salatu wa sallam. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, vraiment très brièvement, vous allez peut-être vous demander, mais quel est l'intérêt de rappeler ces choses? Ce sont là des choses que tout le monde connaît, nos enfants y connaissent. Oui, mais ça fait partie, c'est ça qui construit notre iman. La première chose, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi l'islam? Et le prophète alayhi salatu wa sallam répond, tout d'abord, c'est d'attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, et Mohammed est le prophète d'Allah. Si on demande à quelqu'un, alayhi salatu wa sallam, si on demande à quelqu'un, ça veut dire quoi ce kalima? C'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est notre prophète. C'est en gros la réponse qu'il faut. Mais maintenant, on ne peut pas approfondir cela en 5 minutes, mais qu'on ait les bases de ce calimant, c'est quoi? Tout d'abord, ces deux bases, l'attestation qu'il y a un Dieu unique, c'est Allah, et l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, ces deux bases-là sont indissociables. On ne peut pas les séparer. Quelqu'un ne peut pas dire, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, mais je préfère suivre tel prophète. Je considère que Mahomet était un homme pieux, un grand savant. Dans certains livres d'historiens, ils disent que Mahomet est le plus grand politicien, l'homme le plus apte à diriger un pays. C'est bien, ce sont là des éloges, mais ce n'est pas ça ce qu'on veut. Ça ne nous intéresse pas, ça. On veut que la personne atteste que Mohammed est prophète de Dieu. Il pourra écrire des volumes, des centaines de livres sur les vertus du prophète Mahomet, Mohammed a.s., mais tant qu'il ne dit pas que Mohammed est prophète d'Allah, il ne sera jamais musulman. D'ailleurs, les Yahoud et les Nasara, les chrétiens, les juifs, ils croient au même Dieu que nous. Est-ce qu'on le savait ça? Parfois on a l'impression que c'est des religions totalement éloignées. Non, les chrétiens adorent Allah. Les juifs adorent Allah. Tout comme les polythéistes à l'époque des Quraysh, ils adoraient qui? Ils adoraient Allah. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulun lillah.
Si on demandait aux polythéistes qui a créé les cieux et la terre, ils disaient qui? Ils ne disaient pas Allah, Al-Uzza, wa Manat, Al-Thalitha, Al-Ukhra. Non, ils disaient que Al-Uzza, Manat, Al-Uzza, c'était les grands idoles des Quraysh. Hein. Ils disaient que c'est Allah qui a créé. Mais ensuite, qu'est-ce qu'ils brodent avec ce shahada? D'autres choses qui font qu'ils sortent du cercle du tawhid, de l'unicité d'Allah. Les Yahoud et les Nasara, l'exemple le plus facile, le plus disponible, ils attestent que Allah est le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a envoyé Adam, Noé, etc., tout comme nous l'attestons, avec quelques petites différences dans les histoires, mais là où ça blesse, c'est qu'ils disent que Allah a un enfant. Hein. Donc, le commentaire, le tafsir de la ilaha illallah, c'est quoi? C'est « قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدَ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. L'unicité pure d'Allah, c'est le surat Qul Huwallahu Ahad, qu'on va pas faire le tafsir bien sûr, mais ça c'est, il faut approfondir Qul Huwallahu Ahad pour être sûr que notre la ilaha illallah, il est parfait comme Allah nous l'a demandé. C'est pour ça que si un jour quelqu'un vous dit que moi je suis de telle religion, vous êtes musulman, de toute façon nous croyons au même Dieu. Oui d'accord, on croit au même Dieu, nous sommes frères. Non, nous ne sommes pas frères. Donc, innamal mu'minuna ikhwa. Ahlul iman sont frères. Ceux qui ont la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah de leur cœur, eux, ils sont ukhuwa fid-din. Ils sont des frères par l'attestation de vérité. Mais les autres personnes qui n'attestent pas ces deux bases, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ou un des deux, ces personnes sont certes des gens que nous côtoyons, que nous respectons, qui ont des droits, nous devons respecter nos engagements vers eux, comme on a déjà expliqué dans d'autres programmes, mais ces personnes-là ne sont pas dans le droit chemin. Parce qu'il n'y a pas 50 chemins, il y a sirat al-mustaqim. Le chemin de la droiture. Et des nasrat al-mustaqim que nous demandons dans chaque salat. Après, il y a ghayr al-maghdoubi alayhim wa al-dallin. Ceux qui se sont égarés, ceux qui étaient dans l'ignorance. Et puis, il y a ceux qui ne croient pas ou ceux qui croient en les idoles. Et quand je dis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, c'est ce qu'on fait dire aux gens quand ils se convertissent. Ashhadu, ça veut dire quoi? Bon, là, on ne va pas rentrer dans la conjugaison arabe, pardon. Ashhadu, ce n'est pas akoulu. Ashhadu, c'est, en français, on traduit par quoi? J'atteste. C'est pas je dis. Parce que tout le monde peut dire ça. Si quelqu'un dit, comme nos enfants en CP, ils apprennent des comptines, des poésies, etc. Il raconte, là, mon fils, il est en train d'apprendre un poème sur le poisson, le poisson d'avril. Il récite, mais il ne comprend rien. Si un enfant apprend, il n'y a pas de Dieu à parole là, etc., etc. Ou quelqu'un, un adulte, il lit ça sur une pancarte. D'accord? Est-ce qu'il est musulman? Non. Il ne suffit pas de le dire. Et ça, ce qu'on appelle un autre bil-lisan. Ça, c'est important. Mais tout d'abord, c'est shahadatun bil-qalb. Que le cœur atteste. Qu'il y ait la conviction. Quand je dis j'atteste. Quand j'utilise le mot conviction. Tout cela a un rapport avec le cœur. Que dans mon cœur, je sais que c'est Allah le créateur des cieux et de la terre. C'est Allah qui a tout créé et nous retournerons un jour vers lui. Et rien en dehors d'Allah ne mérite qu'on se prosterne ou qu'on le loue ou qu'on l'estime comme Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'islam, il faut les deux. Ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a avec la langue aussi. Parce que si quelqu'un dit, il croit en Allah dans son cœur, mais il ne lit pas la ilaha illallah, il n'est pas musulman non plus. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'islam. Il y a les actions et il y a le cœur. Alors, le grand piège de Shaitan, c'est quoi? Il dit, moi, mon cœur est propre. Moi, je n'est pas jaloux de personne. Moi, je ne déteste pas personne. Moi, dans mon cœur, j'aime tout le monde. Mais il ne fait pas namaz. Il ne jeûne pas le ramadan. Il ne donne pas la zakat, etc., etc. L'imam de cette personne n'est pas complet. Même si dans son cœur, il brûle d'amour pour Allah. Mais l'amour pour Allah se traduit par quoi? Par les actions. L'amour pour Allah, l'amour pour son prophète, alayhi salatu wasalam, se traduit par l'adoration, le culte d'Allah. Je pose mon front sur le sol pour Allah. Et quand on dit le culte d'Allah, c'est huquq Allah, huquq al-ibad, huquq, etc., etc. Et l'amour pour l'islam, ça se traduit par al-ittiba'. Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni, yuhibbukum Allah. Si on aime Allah, alors on suit le prophète, alayhi salatu wasalam. Donc, il y a les deux choses qui sont nécessaires. Par la langue, et par le cœur. Et d'une manière générale, je répète, dans l'islam, il y a les actions et il y a ce qu'il y a de le cœur. Un ne peut pas se substituer à l'autre. Maintenant, si une personne lit le calément dans un autre niyat, par exemple, ça c'est malheureusement c'est un cas qu'on voit, mais ça on n'a pas le droit de juger. Un garçon, une fille musulmane qui aime un garçon, ou un garçon qui aime une fille musulmane, un garçon musulman aime une fille qui n'est pas musulmane, d'accord? Pour le mariage, il faut qu'elle se convertit ou qu'il se convertit. Alors la personne va lire le kalima. C'est bien, quelqu'un qui rentre dans l'islam, ça permet de se marier, alhamdulillah. Maintenant, la personne, le alim ou le mufti ou je ne sais qui va prendre la responsabilité de convertir cet homme ou cette femme, doit bien procéder à un questionnaire. Bien sonder la personne, quel est le but de ce kalima. Pourquoi vous lisez le kalima? Est-ce que c'est juste pour vous marier avec Fatima, pour vous marier avec Mohammed, ou alors vraiment dans votre cœur, vous connaissez, vous voulez connaître Allah et vous ressentez le besoin de rentrer dans l'islam. Il faut bien que la personne comprenne qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Autrement, nous, on n'a pas le droit de dire que nous, il n'est pas un vrai musulman. Non, ça, on n'a pas le droit. Mais pour Allah, Azza wa Jal, si l'attestation est élue dans ce but, pour Allah, cette personne n'est pas entrée dans le din al-haq. De même, ça c'est un asr qui est important, ça c'est une base importante. Hein, quand on dit la ilaha illallah, la ilaha illallah, c'est, il y a deux parties dans la Mahdi Rasulullah, ça c'est par la suite, inshallah. La ilaha illallah, il y a la ilaha, et ensuite il y a illallah. Les ulama ils disent que la ilaha, on appelle ça en arabe al-nafi, c'est la négation. Je veux dire qu'il n'y a rien d'autre, et illallah, c'est à part Allah. Et taqdiruhu la ma'bouda bihaqm, ça c'est un peu plus technique, aucun autre être n'est digne d'être adoré ou digne d'adoration à part Allah. Donc le la ilaha, c'est quoi? C'est qu'il y a ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun, wa la antum a'abiduna ma a'bud, wa la ana a'abidu ma a'abattum, wa la antum a'abiduna ma a'abud lakum, dinukum wa liyadin. Ça c'est ton din, ça c'est mon din. Le la ilaha, c'est tout ce qui est adoré, adulé en dehors d'Allah. Je dis que tout ça c'est batil. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Ça, j'ai pas la traduction littérale. Ça veut dire que c'est Allah qui est la vérité, le haq, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est batil, c'est faux, c'est caduc, ça n'a aucune existence réelle, c'est le batil. وأن الله هو العلي الكبير. Donc, si une personne se convertit à l'islam, mais dans son cœur, elle continue à fêter certaines fêtes de son ancienne religion, ou à se rendre dans les lieux de culte de sa première religion, cette personne n'est pas musulmane. Je ne peux pas adorer Allah et en même temps considérer tel prophète comme le fils d'Allah ou autre chose, ou autre chose, ou autre chose. Ça, il faut être bien clair. On ne peut pas avoir deux croyances. Alors que la réunion, c'est une tradition un peu. Hein. Il y a beaucoup de personnes, des anciens, qui sont de telle religion et de telle religion. Parce que le papa était de telle religion, la maman telle religion. Ben, eux, ils vouent deux cultes différents. Et c'est paradoxal, ils sont en même temps, on pourrait dire monothéiste, hein, mais ce n'est pas l'islam, le monothéisme de l'islam, et en même temps polythéiste. Mais ça, ce n'est pas acceptable dans l'islam. Et on voit qu'on parle d'ouverture d'esprit, enfin, on ne va pas citer les religions, mais les responsables de cette religion monothéiste, ils acceptent cette ouverture d'esprit. Mais nous, on ne peut pas. Soit on est musulman, soit on a une autre religion. La kumdi, nous kumwaliyadi, ce sont des religions totalement différentes. Donc la ilaha, la ilaha, c'est extrêmement important. C'est avant de dire que c'est Allah qui mérite d'être adoré, je dois avant tout déclarer que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ces êtres, ces créatures, ces statues ou ces divinités proclamées, ne méritent pas le culte, ne méritent pas d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même, ça pose beaucoup de problèmes. Si nous voyons ça, avec la télé, avec Internet, on voit tout de nos gens, on ne peut plus cacher les choses. Si nous voyons des gens en train de faire le acte d'adoration, comme nous, on fait namaz. Comme nous, on fait tawaf autour de la Kaaba. Comme nous, on fait dhikrullah, on lit le Coran, parfois il y a des gens qui pleurent, parfois ils font doigt avec une... On voit la foi dans le cœur, sur le visage de ces personnes. Si nous voyons d'autres personnes, d'autres religions, ça c'est important, qui font leur ibadat à eux, leur culte à eux, de leur manière, et que de leur culte, ils entrent en état de transe. Ben, j'ai déjà vu des documentaires. Ils font leur chant religieux en se tenant les mains et puis bougent comme en état de transe où ils pleurent. Il y a une apparence de ferveur. Mais attention, ce n'est pas parce que cet homme entre en état de transe qu'il y a une lumière divine, il y a une rahma ou une quelconque sakina qui descend sur cette personne. Alors que si du côté des musulmans nous le voyons, ça c'est rahma d'Allah, ça c'est sakina, une personne qui pleure en voyant la Kaaba ou en faisant dans les turpanes, ça c'est la rahma d'Allah qui descend. Mais quand cela se produit pour ceux qui invoquent d'autres qu'Allah, attention qu'on ne se dise pas qu'eux aussi ils ont une part de vérité. Là, wallahi al-azim. Parce que ces manifestations, ça vient de Shaytan. Tout comme, on prend l'exemple le plus fort, quand Dajjal il va ressusciter notre papa et notre maman pour qu'ils attestent que lui c'est Allah. Est-ce qu'on va le croire parce qu'il fait des choses extraordinaires? Non! Ce sont là des pouvoirs qui lui ont été octroyés dans le but de détourner les gens. Et les chayatines, ils sont là pour aider, pour... Et comme on voit les tours de magie, David Copperfield, etc., etc., tout ça, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas truqué tout ça. Ce que nous voyons, ce sont là des illusions. Et j'ai entendu le récit de quelqu'un d'élément, un cher qui expliquait qu'il y avait un jeune qui était parti voir un spectacle de magie, un grand professionnel. Il s'enfonçait des couteaux partout et ça ressortait et tout. Les gens, ils étaient impressionnés. C'est vrai, si on voit ça, on est impressionné. Il n'y a pas de trucage. La personne s'est mise à lire Ayatul Kursi devant cette personne et le couteau est entré vraiment à perforer le cœur de cette personne et entré à l'hôpital tout de suite. Ayatul Kursi, les chayatines fuient. C'est les chayatines qui aident ce genre de choses à se mettre en... Bref, ce n'est pas le but de notre parole, mais qu'on comprenne bien que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est batil. Ça, c'est la première moitié. Et ça, c'est l'équivalent de Qul ya ayyuhal kafirun. Et quand je dis illallah, c'est l'équivalent de Qul huwallahu ahad. Et le mot Allah, c'est le mot... Le mot Allah, c'est le nom par excellence d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? C'est le nom par excellence d'Allah. Et puis il y a le nom, c'est quoi le Ismul A'zam, le nom le plus sacré d'Allah? Ça, aucun être humain ne connaît. Allah Ta'ala a dit qu'il a un nom sacré que par lequel nous l'invoquons et les doigts sont acceptés. Pourquoi Allah ne l'a pas révélé? Pour que les hommes se dépassent mutuellement dans les doigts en invoquant Allah par tous ses noms afin de trouver le bon nom, qu'on fasse le maximum d'efforts. Ah, d'accord. Donc, il y a un nafiu, la négation, et al-isbat, l'attestation de foi. C'est un peu technique quand même, mais c'est pour qu'on comprenne que ce la ilaha illallah, il est extrêmement précis. Et celui qui a ce la ilaha illallah, il est de l'islam. Alors, il y avait l'anecdote de Usama, radiallahu anhu, qui pendant une bataille, il avait son ennemi, soit l'ennemi le tuait, soit il le tuait. Et donc, il a eu le dessus, et avant de frapper, l'ennemi a dit la ilaha illallah. J'attends qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah. Et Usama, là, l'a tué quand même. Le prophète a eu vent de cet incident. Le prophète était tellement colère, il a répété trois fois. Si on retrouve le texte du hadith, le prophète était Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Comment tu l'as tué alors qu'il a dit la ilaha illallah? Il a dit ya Rasulallah, innama qalaha ta'awwuza. Au prophète d'Allah, il a dit uniquement pour se protéger. Il a dit Usama s'est permis de juger la personne. Que quand il voyait qu'il allait perdre, là il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulallah. D'accord? Et le prophète il a répété deux fois et une troisième fois. Et Usama dit Fatamannaytu annani lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm min shiddati ma wujida ran'an. Il a dit j'aurais souhaité que jamais je ne sois rentré dans l'islam. Usama dit tellement ce que le prophète m'a dit, ça m'a perturbé. C'est-à-dire que le prophète l'a reproché avec une telle vivacité, il a montré tellement de colère à Usama quand il a exécuté cette personne, que Usama il a souhaité que j'aurais peut-être même pas être là, tellement c'était dit. Et là, le ulama dit, regardez, quand le prophète a.s.w. fait des reproches à un homme, regardez comment cet homme ne peut pas supporter. Maintenant, que dire, c'est le jour de Qiyamah, devant le tribunal d'Allah, Allah il fait des reproches à quelqu'un. Comme le hadith dit, lima fa'alta kaza wa kaza fi yawmi kaza wa kaza. Pourquoi tu as fait telle chose, à tel moment, en telle circonstance, tu ne croyais pas? Tu ne savais pas que les anges inscrivaient, tu ne savais pas que je voyais ce que tu faisais, les hadiths qu'on avait déjà cités par avant. Les ulama disent que lorsque le prophète fait des reproches à un homme, regardez comment Usama, qui est pourtant un grand sahaba, comment il ne peut pas supporter ce reproche, tellement c'est lourd. Maintenant, que dire des reproches d'Allah? Ça, c'était une petite parenthèse, pour qu'on comprenne bien que si quelqu'un dit « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah », on n'a pas le droit de douter de sa foi. On dit que ah, c'est un fou ça, c'est dit n'importe quoi. Voilà, dit ça juste pour faire intéressant, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire ça. Parce que dans l'islam, nous jugeons les gens par l'apparence. Il a dit, khalas, c'est un musulman. Nous, musulmans, on ne va pas entrer dans le cœur. Ah, lui, c'est un hypocrite. Lui, il n'est pas sincère. Non, ça, c'est pas notre travail, ça. Ça, c'est Allah qui connaît ce qu'il y a dans le cœur des gens. Franchement, on dit que lui, c'est moulissable, lui, c'est le plus pieux. Il a fait des années d'études. Là, Allah, il a envie. Par Allah, non. Il se peut qu'il y ait la dernière personne au fond qui a l'amour pour Allah plus fort de son cœur que tous ceux qui sont assis ici. On ne peut pas juger les gens. Allah seul sait ce qu'il y a dans le cœur des gens et personne n'est capable de dire lui il a quel défaut, lui c'était un petit bien. C'est Allah qui juge. Nous, comme il se présente, nous on l'accepte. Il y avait une petite histoire comme ça. Je crois que c'était Omar ibn Khattab, si je ne me trompe pas, il doutait qu'une personne buvait de l'alcool. C'était lorsqu'il était calife. Alors qu'est-ce qu'il a fait un soir? Il est entré subitement dans la maison de la personne qui buvait de l'alcool. Elle dit, voilà, tu bois, maintenant je suis sûr, Dieu, oh, Amir al-Mu'minin, ce que tu viens de faire, c'est un péché plus grave que ce que moi je fais. Et là, Omar a réalisé qu'effectivement, que lui, s'il fait un péché, mais caché, c'est entre lui et Allah. Je n'ai pas allé fouiller dans l'intimité des gens faut connaître quel est leur péché. Ça, c'est un peu philosophique tout ça. Il faut qu'on comprenne bien que nous jugeons les gens sur leur apparence. Ce qu'il y a dans son cœur comme défaut ou autre chose, ça c'est entre lui et Allah. Moi, je le fréquente en tant que musulman. Je l'aime parce qu'il a la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, son frère. C'est ce qu'on appelle al-hubbu fillah, aimer pour Allah. Ça c'est encore des choses à développer, qu'Allah nous accepte, nous donne la possibilité de comprendre quelle est l'importance de ce kalima. Et puis ça c'est assez technique, l'ulama explique que dans le tawhid, il y a ce qu'on appelle l'unicité d'Allah dans le culte, l'unicité d'Allah dans la création, et l'unicité d'Allah dans les noms et les sifat et les attributs. Mais ça on aura l'occasion d'expliquer, ça c'est un peu compliqué. Alors, on va terminer avec ça. Il y avait une vidéo qui a circulé depuis aujourd'hui sur Facebook. C'est magnifique. C'est une prêche qui est faite par un Américain, donc de couleur noire. Un homme noir américain, il fait sa prêche debout, je ne sais pas dans quelles circonstances. Il ne dit pas des paroles extraordinaires. Il n'y a pas d'ayat de Coran ni de hadith. Apparemment, ça ne doit pas être un savant. Mais il parle avec son cœur. Et quand quelqu'un parle avec son cœur, c'est une connexion directe, ça, c'est cœur à cœur. Ça ne passe pas par 50 antennes ou réseaux, non. Ça touche direct le cœur. Cet homme l'explique. Hein, on pourra donner le lien pour ceux qui s'y intéressent. Il explique c'est quoi la chance d'être né musulman. Vous savez, quand quelqu'un a iman de son cœur et qu'il meurt, déjà il a la garantie, Inch'Allah, d'accéder au paradis. D'accord ? Également, quand quelqu'un est musulman, il lui arrive n'importe quoi comme malheur, comme difficulté, il fait preuve de patience, il est récompensé par Allah. Comme le hadith qu'on a déjà expliqué par avant, et le prophète a dit que ça c'est spécifique pour le musulman. Celui qui n'a pas la foi, il lui arrive des pépins et des difficultés dans cette vie, il n'a rien en compensation. Alors que moi il m'arrive la même chose, Allah élève mon grade, pardonne mes péchés et me récompense pour la patience. Également les actions qui sont accomplies par quelqu'un qui n'a pas le iman, n'ont aucune valeur par Allah. Ces gens seront récompensés dans ce monde. Ils seront honorés. Mais le jour de Qiyamah devant le tribunal d'Allah, ces actions n'ont strictement aucune valeur. Même si c'est quelqu'un qui a donné des millions, des millions, des millions ou des milliards pour des pays pauvres, pour creuser des puits, pour la famine, etc. etc. comme on voit avec des acteurs qui font ça dans le monde entier. Mais s'il n'y a pas la ilaha illallah dans leur cœur, aucune action n'est acceptée. Alors que nous, la moindre action qu'on va faire sera comptabilisée, multipliée, décuplée, on sera 1000, jusqu'à 700 000 fois plus récompensé, uniquement parce que dans notre cœur nous avons la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça c'est l'important du kalima, mes chers frères. Et celui qui meurt en lisant ce la ilaha illallah, Inch'Allah, cette personne mérite, a le droit d'accéder au paradis. Et jamais quelqu'un qui a la ilaha illallah de son cœur ne brûlera éternellement à l'enfer, dans l'enfer. Ce qu'on appelle Khalid Mukhallad, jamais. Peut-être la personne sera punie pour des péchés accomplis, mais jamais l'éternité dans le feu de l'enfer. Et cet homme, il disait, pour conclure, il disait que j'ai, là je n'ai pas compris, 8 ou 9 fils, il a dit, si un jour mes enfants, ils deviennent médecins, ou avocats, ou architectes, je serai très heureux, ils vont bien gagner leur vie, d'accord ? Il a dit, mais s'ils deviennent médecins, mais sans qu'il y ait calément de leur cœur, alors ce sera la plus grande des défaites. Même s'ils gagnent 15 ou 20 000 euros par mois, mais s'ils n'ont pas la ilaha illallah, je serai le père le plus triste. Et maintenant, s'ils ont la ilaha illallah de leur cœur, même s'ils travaillent ou ils sont au chômage, ils n'ont pas réussi dans la vie, mais s'ils ont l'amour d'Allah de leur cœur, je serai le père le plus heureux. Pourquoi ? Parce que je sais que mes fils, je leur ai donné l'éducation religieuse qu'il faut. Et le jour où ils quittent ce dunya, ils seront aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait que moi, je préfère être sans abri, être malade, dormir dans un temple, mais avoir la ilaha illallah dans mon cœur. Hein ? Que d'être riche, d'avoir tout, mais ne pas avoir la foi. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, nous fasse prendre conscience de l'importance de ce kalimah. Nous demandons à Allah de renforcer ce kalimah jour après jour de nos cœurs, que ce kalimah augmente de puissance par le biais de nos actions, et que jamais, jamais, mes chers frères, que Shaitan puisse nous faire tomber dans ces waswasa, dans ces insufflations, dans ces pièges, par les différentes choses qui nous entourent, et qu'Allah nous donne la mort avec ce kalimah. Parce qu'il y a des gens qui font des actions de Ahlul Jannah jusqu'à la mort, et avant de mourir, ils font une action qui les mène directement vers l'enfer. Qu'Allah nous protège, ça c'est hadith ça. Sur la porte du Jahannam, il y a écrit des noms, et sur la porte du Jannah, il y a écrit des noms. Où est notre nom ? Allah seul le sait. Mais personne ne doit se dire que moi je suis sauvé. Parce que je m'appelle tel nom, parce que j'ai fait telles études, je suis un savant, etc. Je suis sauvé. La wallahi l'azim. Personne ne sait comment il va terminer. C'est uniquement si Allah nous aime, il nous permettra de quitter ce dunya avec la ilaha illallah. Inch'Allah, que chaque personne ici présente et que chaque personne, chaque musulman, nos proches, nos familles, qu'il quitte ce dunya avec ce la ilaha illallah et qu'Allah soit satisfait de nous. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.